Radio Éthique.
Écoute la planète.
Chaque jour, un tête-à-tête sur la planète, c'est l'invité de Radio Éthique.
Édouard Barre, professeur au Collège de France et spécialiste des évolutions naturelles entre l'océan, l'atmosphère, la cryosphère et la biosphère, était l'invité de l'Institut océanographique Fondation Albert Ier pour le premier des mercredis de l'Institut océanographique, des mercredis qui donnent la parole aux plus grands acteurs du monde marin. Or, l'Arctique est la sentinelle du climat de la planète. Il l'est si bien que l'Arctique se définit par son climat. Édouard Barre.
C'est une région, alors il y a plusieurs définitions, mais pour faire simple, on peut parler de la région qui est au-delà du cercle arctique. Bon, c'est une région aussi qui est caractérisée par le fait qu'il y a un océan au niveau du pôle Nord, l'océan Arctique, qui est en fait une Méditerranée. Donc c'est une zone très particulière qui est froide et qui est englacée chaque année avec de la glace de mer, de la banquise, et qui est caractérisée aussi par une grosse calotte de glace qui est centrée sur le Groenland. Donc vraiment, il y a tous les ingrédients un petit peu pour que le climat évolue.
L'Arctique n'a pas une position figée. Il épouse le mouvement de la Terre sur son orbite, un mouvement qui crée des périodes de glaciation, puis l'inverse sur 40 000 ans. Or, nous sommes dans une période où la zone polaire se réduit de 15 mètres par an.
Il y a à la fois des fluctuations qui sont naturelles, avec en particulier des glaciations, tous les 100 000 ans, il y a des fluctuations aussi à 40 000 ans, à 20 000 ans, il y a plusieurs cycles qui existent depuis des millions d'années et que l'on peut suivre avec des archives paléoclimatiques, mais en même temps, il y a une fluctuation qui est assez récente aussi, d'un réchauffement qui intervient pendant notre période interglaciaire et qui donc a tendance à faire disparaître encore plus le Groenland qu'il ne l'est lors d'une période interglaciaire.
De l'eau de mer et de l'eau douce que l'Arctique, respectivement la banquise et le Groenland, deux loupes face au soleil en première position pour enregistrer les évolutions du climat. Lors de l'été 2012, la glace polaire avait fondu à 97% et lorsque le GIEC prévoit un réchauffement climatique de 3 degrés, en Arctique, ce réchauffement est du double, de 7 degrés.
Alors en particulier sur la fonte du Groenland, il y a effectivement une accélération qui est étudiée de façon très très précise et que l'on peut suivre avec des satellites qui permettent de peser carrément le Groenland en cours du temps et on voit très clairement une accélération de la fonte.
Le Groenland, 2 millions de kilomètres carrés qui joue le rôle de réfraction des rayons du soleil. Plus la calotte glaciaire du Groenland fond, plus les rayons du soleil la pénètrent. Or, le Groenland a en stock l'équivalent de 7 mètres d'élévation du niveau des océans.
La remontée actuelle du niveau de la mer que l'on observe avec les satellites, qui est de l'ordre de plus de 3 mm par an, eh bien, partiellement, elle est liée à la fonte du Groenland. C'est quelque chose qui est connu. Ça a une influence aussi aux tropiques. Donc, il faut avoir cette vue. Et c'est ça qui est à la fois important pour convaincre les politiques que tout est lié et que toutes les nations de la planète doivent finalement se donner la main. Bon, c'est un peu naïf de le dire, mais en même temps, c'est une réalité parce que notre climat, finalement, connecte toutes les populations. Des choses qui peuvent intervenir sous les tropiques vont avoir une influence au pôle et vice-versa.
L'Arctique enregistre donc les véritables effets du changement climatique et interagit avec le reste du globe. L'Arctique est la sentinelle du climat.
L'Arctique est en fait une région sentinelle, une région qui est très sensible au changement climatique. Donc si on veut voir effectivement le changement climatique et se convaincre du fait que c'est une réalité et que c'est quelque chose qui est en train d'évoluer, eh bien, il faut aller en Arctique pour voir effectivement des changements de température qui sont pratiquement le double de ce que l'on peut observer dans d'autres zones où on peut encore être sceptique sur le fait que ça augmente ou pas. Et en même temps, il y a d'autres phénomènes qui sont aussi très importants qui affectent les glaces situées en Arctique, en particulier de la banquise, et le Groenland qui est de la glace atmosphérique qui a précipité sous forme de neige et ensuite qui s'est compacté sous forme de calotte de glace. Donc deux glaces qui sont différentes, mais qui ont toutes les deux tendance à fondre.
Toute la question est l'effet de seuil, le point de non-retour à ne pas atteindre.
À très court terme, il n'y a pas de risque. C'est ça le problème en fait, du changement climatique, c'est qu'on ne peut pas dire que c'est quelque chose qui va intervenir à la prochaine échéance politique. Sur 5 ans, 10 ans, les tendances qui nous intéressent et qui nous inquiètent sont des tendances sur quelques décennies, voire le siècle. Le problème, c'est qu'il y a une inertie très importante du système climatique et que ce que l'on ne fait pas actuellement, eh bien, ce sera irrattrapable. Le changement qui est en route, lorsqu'on le verra de façon très net, ce sera tout à fait inarrêtable. Il faudra uniquement se soucier de travailler en fait sur l'impact, alors qu'à l'heure actuelle, on peut encore jouer sur les teneurs de gaz à effet de serre en les limitant, en essayant de modérer notre consommation de gaz à effet de serre.
Sur le podium, un des plus grands émetteurs de gaz à effet de serre, la Chine, les États-Unis et la Russie qui, elles, les diminuent un peu. L'Europe ne parvient pas à appliquer ses belles intentions. Or, la réduction des gaz à effet de serre est la clé pour ne pas atteindre ce fameux point de non-retour.
J'essaierai de diminuer la concentration de gaz carbonique atmosphérique. La baguette magique n'existe pas, mais en particulier, on pourrait très bien essayer de pomper ce gaz carbonique atmosphérique, mais pour l'instant, les quelques essais qui ont été proposés, eh bien, économiquement, sont quand même très très lourds, ce qui fait que, pour l'instant, effectivement, s'il y avait une baguette magique, j'aimerais bien l'utiliser pour faire disparaître une partie du gaz carbonique supplémentaire que nous injectons chaque année.
Et la diplomatie internationale dans tout cela ?
Quand on a une vue un petit peu réaliste de la diplomatie climatique à l'échelle de la planète, on ne peut être qu'inquiet. Alors en tant que membre du Collège de France, effectivement, j'ai été sollicité à nombreuses reprises par des politiques français ou pour des réunions internationales. J'ai même participé à un colloque à Monaco à l'occasion d'une réunion de la Commission européenne sur les changements en Arctique. Il est très clair que les politiques sont quelquefois convaincus, mais en même temps, ils sont aussi liés à des échéances à très court terme, des échéances économiques, des échéances politiques qui font que des phénomènes comme ça sur le très long terme n'ont finalement plus d'influence sur les décisions. Et c'est ça qui est très malheureux et qui est difficile justement à négocier pour le futur de la planète. En même temps, mon rôle à moi en tant que scientifique, c'est d'être aussi optimiste, d'être réaliste et optimiste et de montrer la réalité de ces évolutions, de ne rien cacher en fait aussi des incertitudes que l'on a sur ces projections, mais en même temps de véritablement montrer que certaines choses sont certaines et que ça va impacter nos sociétés.
Édouard Barre, professeur au Collège de France et grande médaille Albert Ier, qui distingue un chercheur scientifique hautement qualifié et d'envergure mondiale dans le domaine de l'océanographie.
C'était une interview réalisée par Pascal Marcaggi.